24h en temps universel, 5h ici à Paris. Le journal. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
À la une, le Hamas restitue quatre corps d'otages israéliens.
Dans le cadre de la trêve Israël-Hamas, Israël de son côté a libéré un peu plus de 600 prisonniers palestiniens accueillis tout à l'heure par une foule en liesse à Ramallah. L'Union européenne conçue pour entuber les États-Unis, les mots de Donald Trump, le président américain poursuit ses attaques verbales contre l'UE et confirme des droits de douane sur les produits européens à hauteur de 25%. En Guinée-Bissau, l'opposition appelle aujourd'hui à la paralysie totale du pays. Selon elle, c'est aujourd'hui que devait prendre fin le mandat du président. Et puis on terminera ce journal en Ukraine, à Kharkiv, où les habitants tentent de mener une vie à peu près normale. Reportage au café Pakoufada, qui organise des rencontres culturelles, havre de paix, dans un quotidien rythmé par les alertes anti-aériennes. Au Proche-Orient, ce nouvel échange dans la trêve entre Israël et le Hamas, quatre corps d'otages israéliens morts en captivité à Gaza ont été remis à Israël il y a quelques heures. Le processus d'identification des corps est en cours, selon les autorités. La restitution de ces dépouilles a été suivie par des centaines de personnes à Tel Aviv, sur la place des otages, où les Israéliens sur place ont fait part de leur colère contre leur gouvernement. Reportage de Pierre-Olivier.
C'est la deuxième fois depuis le cessez-le-feu que des corps sont remis par le Hamas à Israël. Après un mercredi marqué par les obsèques de la famille Bibas, cet échange d'otages décédés contre des prisonniers palestiniens est d'autant plus douloureux.
C'est pas normal qu'on rende des terroristes vivants, en pleine santé, et nous qu'on nous rende des cercueils.
C'est absolument impensable qu'on puisse remettre encore des terroristes en vie pour qu'ils puissent recontinuer à faire des attaques et des actes de barbarie.
D'autres accusent Benjamin Netanyahou de ne pas avoir fait suffisamment pour que tous les otages reviennent en vie.
C'est horrible à dire, mais la véritable perte a eu lieu le 7 octobre, pas aujourd'hui. Tout cela s'est produit car les otages ont été abandonnés par ce gouvernement déplorable. C'est à ce moment-là que les pertes ont eu lieu. Alors maintenant, cet échange, c'est le prix à payer. Cette histoire ne sera pas terminée tant que morts et vivants ne seront pas tous rentrés.
Et pour cette femme également, qu'importe le prix à payer.
Moi, à mon avis, il faut rendre tous les prisonniers pour récupérer les morts, les vivants. Ils doivent retourner à la maison.
La maison Israël qui continue de faire nation autour de ses otages alors que chaque échange semble écorcher un peu plus les blessures de tout un peuple. Pierre-Olivier, Tel Aviv, RFI.
Et comme prévu en échange, Israël a libéré des prisonniers palestiniens, un peu plus de 600, qui ont été accueillis par des scènes de liesse à Ramallah. Une foule compacte, des larmes de joie. La première phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, elle, est censée prendre fin samedi. Après-demain, les négociations doivent reprendre pour poursuivre cette trêve. Le Hamas se dit prêt à les reprendre et estime ce matin qu'Israël n'a pas d'autre choix que de faire de même. L'armée israélienne, malgré ce cessez-le-feu à Gaza, mène des opérations. Elle dit avoir frappé des cibles à Gaza après des tirs de projectiles venant de l'enclave. Et sur Gaza, une vidéo réalisée avec l'intelligence artificielle fait le tour des réseaux sociaux. Publiée sur le compte Instagram de Donald Trump, elle imagine le futur de l'enclave sous contrôle américain. Avec hôtel de luxe, touristes, on y voit même des images fictives donc de Donald Trump en maillot de bain sur une plage de Gaza, avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donald Trump qui réunissait hier ses ministres à la Maison-Blanche, première fois depuis son investiture, une réunion publique d'un peu plus d'une heure où il a vanté le bilan de ses premières semaines de présidence. Correspondance à Washington de Guillaume Nodin.
Contrairement à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres en France, qui est une réunion de travail, la réunion du cabinet aux États-Unis, plus espacée, c'est surtout de la symbolique et de la communication. Et Donald Trump adore ça, alors il ne se prive de rien. Il confirme que Volodymyr Zelensky sera vendredi à Washington pour y signer un accord très important, dit-il, sur les terres rares et les minerais ukrainiens. En revanche, il dit que son pays n'apportera pas de garantie de sécurité à l'Ukraine dans les négociations qu'il mène avec la Russie pour mettre fin à la guerre. Pour le président, ce sera le rôle des Européens qui cherche pourtant à en obtenir de la part de Washington. Ce qu'ils obtiennent pour l'instant, c'est surtout des menaces de guerre commerciale et un langage fleuri. Donald Trump annonce qu'il a décidé de mettre en place des droits de douane à hauteur de 25% sur les produits en provenance de l'Union européenne, qui a selon lui été créé pour entuber son pays. Il ajoute à la volée pour un autre ami traditionnel des États-Unis qu'il n'a pas du tout l'intention de s'engager à empêcher la Chine de prendre Taïwan par la force. Au contraire, il vante plutôt l'excellence de sa relation avec le numéro 1 chinois Xi Jinping. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
La Chine accentue justement un peu plus la pression autour de Taïwan. Elle renforce sa présence militaire. Ce matin, Taïwan dit avoir détecté 45 aéronefs chinois en 24 heures, un record depuis le début de l'année. La Chine estime que Taïwan fait partie intégrante de son territoire et mène des manœuvres d'intimidation régulièrement dans le détroit. Pékin a mené ces derniers jours aussi des manœuvres similaires au large du Vietnam et de l'Australie. Et on évoquait il y a quelques instants avec Guillaume Nodin les droits de douane imposés par les États-Unis à l'Europe. L'Union européenne a promis hier soir qu'elle réagirait fermement. Des droits de douane, en tout cas, auraient un gros impact sur le vieux continent pour certains secteurs, comme celui de l'acier, déjà en crise. Nathanaël Vitran, pour les industriels, il y a urgence à agir.
Si rien n'est fait, les nouvelles taxes Trump risquent bien d'être le dernier clou dans le cercueil de la sidérurgie européenne. La demande est morose et le monde en surcapacité de production. Axel Egert est directeur général de l'Association européenne de l'acier qui défend les intérêts de cette industrie à Bruxelles.
La Chine, mais aussi d'autres pays comme le Japon, le Corée, l'Inde, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ils sont forcés eux-mêmes d'exporter à très bas prix.
Un acier souvent subventionné contre lequel les sidérurgistes européens ne peuvent pas lutter. D'autant que quand les États-Unis se barricadent, l'Europe, elle, reste un marché ouvert. Conséquence, la sidérurgie européenne a perdu 18 000 emplois en 2024.
On parle ici de 18 000 emplois directs. Il faut multiplier par 8 pour l'impact total parce que un emploi dans la sidérurgie créer 7 autres emplois ailleurs dans l'économie.
Ils attendent donc d'être protégés par Bruxelles.
Bien sûr, on ne veut pas fermer notre marché, c'est pas notre politique, mais il faut avoir des quotas qui stabilisent le marché.
Les sidérurgistes soulignent aussi l'urgence de faire baisser les prix de l'énergie pour les industriels. L'exécutif européen a promis de s'attaquer au sujet, quitte à revenir sur ses engagements environnementaux.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. RFI 5h07 à Kinshasa. Le mouvement AFC-M23 poursuit sa progression dans l'est de la RDC et menace la province du Tanganyika. Des affrontements sont signalés depuis quelques jours sur les hauts plateaux du sud Kivu, les plateaux qui surplombent le lac Tanganyika. On reparle plus largement de la situation dans l'est de la RDC dans le prochain journal d'actualité africaine à 4h30, temps universel. La Guinée-Bissau, elle, se prépare à une journée de tension. L'opposition appelle à la paralysie du pays aujourd'hui. Elle estime que le mandat du président, Oumaro Sissoko Embalo, est censé prendre fin aujourd'hui. Donc, même si pour la Cour suprême, son mandat s'étend jusqu'au 4 septembre. Déjà mardi, une mission de la CDAO a rencontré les chefs de plusieurs partis politiques pour tenter de renouer le dialogue. Deux jours après l'annonce du président Embalo sur la tenue des élections présidentielles et législatives pour fin novembre, cette incertitude politique s'inscrit dans un contexte historique marqué par une succession de coups d'État depuis l'indépendance du pays. Pour Alex Vines, directeur du programme Afrique à Chatham House à Londres, la confusion concernant la fin du mandat présidentiel s'explique par le dysfonctionnement du système de gouvernance du pays.
La Guinée-Bissau fonctionne selon un système semi-présidentiel fondé sur une constitution adoptée en 1993. Ce système engendre des visions concurrentes du rôle de l'exécutif, ce qui crée une confusion sur la durée du mandat présidentiel. Le président Embalo a suspendu les élections l'année dernière et il y a maintenant une contestation sur la date à laquelle elle devrait se tenir. La Cour suprême n'est pas vue comme un organe indépendant, mais comme étant influencée par le président Embalo, selon l'opposition. Cela alimente la méfiance et la confusion concernant le calendrier électoral. Le président Embalo semble être confiant sur le fait que ces élections se tiendront en novembre de cette année. Il y a des interrogations sur sa volonté de briguer un second mandat. Il a déclaré publiquement que sa femme l'avait convaincu de ne pas se représenter, mais tous les signes indiquent qu'il envisage de revenir sur cette décision.
Alex Vines, directeur du programme Afrique à Chatham House à Londres, joint par Christina Okelou. En Ukraine, après 3 années de guerre, le front évolue peu. L'armée russe évolue peu dans l'est, dans le Donbass. Même situation dans la région russe de Koursk, où l'armée ukrainienne mène une offensive depuis l'été dernier. Dans cette région, de nouveaux soldats nord-coréens auraient été déployés pour épauler Moscou. C'est ce qu'affirment ce matin les renseignements sud-coréens. Les Ukrainiens continuent donc de vivre sous une menace quotidienne avec des alertes anti-aériennes, le bruit des explosions, une vie bouleversée. Mais le monde de la culture reste actif et propose de nombreuses activités qui permettent aux Ukrainiens de se changer les idées. Illustration à Kharkiv, dans l'Est, deuxième ville du pays, où le café Pakoufada entame sa seconde vie après avoir été bombardé l'an dernier. Reportage sur place de notre correspondante Emmanuelle Chaz.
Ça pourrait être un café boulangerie comme les autres, mais Pakoufada à Kharkiv fait face à des challenges que seule la guerre peut créer. Lilia, la cofondatrice, se rappelle du bombardement du 2 janvier 2024 qui avait dévasté le café.
Ça nous a pris pas mal de temps de rétablir tout. On a rouvert dans 2 semaines après le bombardement. Donc on a dû refaire un peu tout, mais on a rouvert avec les fenêtres.
Avec les panneaux en bois.
Avec les panneaux en bois, oui.
À la réouverture, Lilia a décidé d'organiser des projections de films, des événements culturels ou encore, comme le jour où on la rencontre, des petits déjeuners.
J'ai eu cette idée d'avoir les petits déj et les rencontres avec quelqu'un. Il y a une application qui s'appelle Breakfast App. Ça fonctionne dans plusieurs pays. Donc c'est international. Ils trouvent quelqu'un qui est intéressant, fait un métier intéressant, mais ça peut être n'importe quel métier. Et ils proposent comme se rencontrer autour de petits déj. Et c'est très convivial parce que c'est un petit déj, tout le monde mange, tout le monde discute, mais il y a une personne qui est comme là, parée de ce qu'elle fait. Et comme il y a toujours besoin d'avoir plus et plus d'argent pour l'armée et collecter l'argent.
Même dans ce contexte social et convivial, la guerre s'invite partout. À Pakoufada, des levées de fonds sont souvent organisées. À tout moment, clients et employés peuvent être mobilisés et en attendant, ils font tout pour soutenir l'effort de guerre, loin d'être fini pour eux. Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
RFI, il est 5h12 à Paris, 4h12 en temps universel. On reste ensemble pour un tour de l'actualité internationale.
Marion Casanov.
On sera d'abord en Italie, alors qu'à Rome, les États débattent pour un accord à la COP16 biodiversité. Dans la région des Marches, dans le centre du pays, des agriculteurs se battent concrètement pour la préserver, cette biodiversité. Reportage à venir. En Russie, cela fait 10 ans que l'opposant Boris Nemtsov a été assassiné. 10 ans plus tard, il reste un symbole dans le pays. L'invité culture de RFI ce matin est la dessinatrice Justine So pour sa bande dessinée Wax Paradox, où elle raconte l'histoire de cette étoffe africaine qui ne l'est pas tout à fait, du moins pas à l'origine. On retrouvera Caroline Paré pour le Conseil Santé. Ensuite, un tour dans la playlist musicale de RFI. Tout cela avant le retour de l'actualité africaine. Les débats vont se poursuivre aujourd'hui encore à Rome, à la COP16 biodiversité. 4 mois après l'échec des négociations à Cali, en Colombie, les pays participants espèrent cette fois arracher un accord pour conserver cette biodiversité. Mais certains n'ont pas attendu les décisions des États pour prendre des initiatives. C'est le cas, par exemple, d'un réseau d'agriculteurs italiens qui agit depuis 20 ans dans la région des Marches, dans le centre. Ces agriculteurs tentent de sauver les espèces menacées de fruits, légumes, d'arbres, mais aussi des espèces d'animaux typique de la région. Cécile Debarge a rencontré l'un de ces agriculteurs gardiens à Grotta Mare, sur la côte adriatique.
C'est en poussant la grande porte de la propriété de Giovanni Masicci que l'on découvre une agrumerie du XVIIe siècle, construite à flanc de colline. Sous une fine pluie d'hiver, Ambra Micheletti inspecte les arbres qui portent les fruits de 3 espèces locales en voie d'extinction.
Il y a l'orange blonde du Piceno, c'est cette variété-ci, le citron pin et la sanguine qui est cette orange là en bas parce qu'elle a une peau qui tend vers le rouge et sa pulpe est plus foncée.
Ambra Micheletti est la responsable du projet biodiversité de l'AMAP, l'Agence régionale des Marches pour l'agriculture et la pêche. Dès 2003, soit 12 ans avant que cela ne devienne une loi nationale, la région a été l'une des premières du pays à adopter un texte pour protéger la diversité du patrimoine génétique des animaux et des végétaux. C'est comme ça qu'est né le réseau des agriculteurs gardiens. Le propriétaire de l'agrumerie est l'un d'eux. 3 des 4 agrumes inscrits au registre régional des espèces en voie d'extinction se trouvent chez lui. Les 2 à 3 tonnes de fruits produits sont vendus à des entreprises de transformation locale qui en font du jus ou des confitures. Cela ne suffit pas pour couvrir les frais engendrés, explique Giovanni Masicci.
La mission de l'agriculteur gardien se confronte aussi à cette question de moyens. Car si on analyse le produit de manière strictement économique, ce n'est pas rentable.
Pendant des siècles, les oranges blondes du Piceno se trouvaient pourtant sur des milliers de tables européennes pendant tout l'hiver, notamment grâce à leur acidité.
Le fait qu'elles soient très acides leur permettait de se conserver bien plus longtemps. En 1890, on sait que des wagons entiers d'agrumes partaient de Grotta Mare pour le nord de l'Europe, en particulier pour la République tchèque et l'Autriche.
Les variétés locales ont fini par être délaissées, puis oubliées. Et même pour celles qui sont aujourd'hui sauvées, un autre défi s'annonce, raconte Giovanni Massicci.
Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, certains parasites qu'on n'avait jamais eus se sont déplacés vers le nord du pays.
L'automne dernier, la mouche méditerranéenne a ravagé ses mandarines. Giovanni Massicci ne baisse pas les bras, ses agrumes, c'est sa passion. L'année dernière, dans la région, une variété d'abricots, une d'artichaut, une de chardon et une espèce locale de canard ont été recensées par le projet. En 22 ans, 170 espèces végétales et animales ont été répertoriées et sont conservées par le réseau d'agriculteurs gardiens de la région. Cécile Debarge, Grotta Mare et RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site rfi.fr ou bien notre application Pure Radio. En Russie, l'affaire Boris Nemtsov continue de faire parler. Cet opposant à Vladimir Poutine a été tué par balle il y a 10 ans sur un pont dans le centre de Moscou. En 2017, 5 hommes avaient été arrêtés et condamnés pour ce meurtre avec des peines allant de 11 à 20 ans de prison. La famille de Boris Nemtsov avait dénoncé un fiasco total de la justice russe car, selon elle, le vrai commanditaire de l'assassinat n'a pas été identifié. On retrouve à Moscou notre correspondante Anissa El-Jabri. 10 ans après la mort de Nemtsov, Anissa, le pont sur lequel il a été tué reste un lieu de mémoire informelle.
Oui, à Moscou, ils sont nombreux à ne plus appeler ce pont de son nom sur le papier Bolshoï Mostovoretsky. Ici, on dit souvent « je suis passé par le pont Nemtsov ». Pont Nemtsov, c'est aussi le nom d'un compte sur X. Il est animé par des bénévoles qui postent des photos et veillent aussi physiquement sur le lieu de mémoire dressé sur les lieux de l'assassinat du célèbre opposant. Il y a des fleurs, des bougies, des photos à son image et elles sont régulièrement enlevées par des hommes inconnus et souvent masqués. Il y a un mois, pile, certains des derniers compagnons de route de Boris Nemtsov encore en Russie ont lancé une pétition qui demande à la ville de Moscou d'installer une plaque en son honneur. Elle comptait hier mercredi à la mi-journée 7255 signatures.
Y a-t-il des chances pour que les autorités valident cette démarche ?
Eh bien franchement, rien n'est moins sûr, tant ce minuscule lieu de mémoire est particulièrement chargé politiquement et surtout en ce moment. En février 2022, 3 jours tout juste après que Vladimir Poutine ait envoyé ses soldats à l'assaut de l'Ukraine, eh bien l'anniversaire de la mort de Boris Nemtsov avait rassemblé une foule de contestataires sur ce pont. On y déposait, ce qui n'était à ce moment-là pas encore interdit sous peine de lourde amende ou de prison, des petits mots qui disaient « non à la guerre », des fleurs jaunes et bleues aux couleurs du drapeau de l'Ukraine. Quand je vous dis déposer, c'était en fait quasi au pas de course. Les forces de l'ordre étaient présentes en nombre ce jour-là et elles avaient interdit tout regroupement statique et elles veillaient de manière très ferme à ce que chacun se contente d'un passage rapide.
Anissa, que représente encore Boris Nemtsov aujourd'hui ?
Il était l'ancien vice-premier ministre de Boris Yeltsin quand il était président. Il était surtout une figure très respectée. Et aujourd'hui encore, il est décrit comme celui qui aurait été le plus de taille et de très loin véritablement défié politiquement Vladimir Poutine. Écoutez son compagnon de route, Boris Nadejdin, c'est le candidat écarté à la présidentielle l'an dernier.
Sa mémoire est le souvenir de ce que la Russie aurait pu être. Et d'une certaine manière, cela donne de l'espoir. La vie même de Nemtsov, son comportement, ce qu'il était, tout cela donne l'espoir que les choses peuvent changer pour le mieux et que la Russie deviendra pacifique et libre. C'est impossible qui a existé. Aujourd'hui, de nombreux dirigeants écrivent que la Russie n'a pas d'autre voie, que nous devons être un empire avec une grande armée pour l'éternité, pour que tout le monde ait peur de nous. Beaucoup écrivent que tel est le destin de la Russie, alors qu'en fait, pas du tout. La Russie peut devenir un pays européen normal. C'était exactement le combat de Nemtsov.
Boris Nemtsov a, lui, été assassiné quelques heures après avoir lancé un appel pour une marche contre, déjà, la guerre de la Russie en Ukraine.
Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Moscou. Ses couleurs vives et ses motifs sont reconnaissables de loin. Et entre tous, le wax a l'honneur en ce moment dans une exposition au Musée de l'Homme à Paris et dévoile une histoire plus complexe qu'il n'y paraît, qui ne s'arrête pas au continent africain. Une histoire racontée aussi à travers une BD sortie à l'occasion de cette expo. Justine Sow signe Wax Paradox chez Bayard Graphique. La dessinatrice belge aux origines guinéennes aborde les questions de métissage et d'appropriation culturelle. Elle répond aux questions d'Olivier Roger.
Bonjour Justine Sow. Pour l'Afrique et pour le monde, le wax est bien plus qu'un tissu. C'est une histoire de circulation des savoir-faire, de mélange des idées et des techniques. Quelle est votre relation avec ce tissu et comment avez-vous intégré cette relation à votre bande dessinée Wax Paradox ?
Moi, ma relation Wax est vraiment née avec cette bande dessinée parce que j'ai dû beaucoup me documenter. Je voulais pas fantasmer un personnage, j'ai décidé d'assumer mon point de vue, qui est celui d'une personne afro-descendante, née en Occident et en grandi en Occident. Et donc j'ai dû beaucoup apprendre avant de me lancer dans la scénarisation, dans la mise en scène.
Et justement, qu'est-ce qui vous a fait le plus réfléchir dans l'histoire du Wax ?
Moi, j'étais pas au courant qu'il existait un mouvement No Wax. Je savais pas qu'il y avait des personnes qui préféraient mettre en avant les tissus traditionnels et je me suis dit je vais prendre ces thématiques, je vais m'emparer de ça et je vais les incarner dans des personnages. Et mon souhait c'est que les lecteurs et lectrices se laissent emporter en fait par la sensibilité des personnages et comprennent que c'est le genre de débat dans lequel tout le monde a raison. On va comprendre le personnage d'Aliou qui dit mais non, le wax ça n'a rien d'africain, enfin c'est européen, moi je préfère mettre en avant le lépi, le kente, et je veux qu'on comprenne aussi le personnage d'Iman avec qui il discute, qui lui dit mais pas du tout, le wax c'est typiquement africain, notre apport est indéniable là-dedans, et qu'on se dise quelque part c'est peut-être le genre de débat où à la fin, on n'a pas vraiment de réponse et que c'est bien comme ça. Moi, la BD, je voulais qu'elle pose des questions, qu'elle nourrisse les lecteurs et lectrices et qu'elle leur permette potentiellement d'avoir un avis un peu plus éclairé lorsque reviendra autour de la table ce débat de l'appropriation culturelle. Et c'est vrai qu'on comprend bien d'où vient le wax, qui a fait quoi, les Européens, les Indonésiens, les Africains, mais ça ne dit toujours pas à qui il appartient.
Tout le monde se l'est approprié finalement.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse et qu'il faut pouvoir l'accepter. C'est pour ça que j'ai proposé un parallèle avec le métissage, avec la complexité identitaire, parce que là non plus, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il est illusoire d'attendre d'une personne métissée qu'elle fasse un choix, qu'elle se dise mon identité c'est ceci ou c'est plutôt cela. C'est tout à la fois, c'est mouvant, c'est hybride et c'est bien comme ça, mais j'ai l'impression qu'on a parfois du mal à le concevoir parce qu'on est plus à l'aise avec des catégories qui sont fixes. Mais l'identité, c'est pas fixe pour moi. C'est flexible, ça bouge, et c'est ça le mouvement de la vie. Donc, le wax est un tissu vivant parce que doublement parce que déjà il est au cœur de plusieurs polémiques et donc on en parle, et puis pas que des polémiques. Il est vivant, il est mis en avant dans le secteur de la mode et même ailleurs. On le voit partout dans les boutiques. Il est là, il est autour de nous. Mais il est vivant parce qu'il vibre. Quand vous le regardez, vous voyez bien qu'il y a des couleurs complémentaires qui sont mises les unes à côté des autres et ça le rend vivant. Il y a des impressions de matière qui apparaissent avec le trait en couleur indigo qui nous donne cette impression de vie. Et donc ce tissu, je pense qu'on ne peut pas le catégoriser, on ne peut pas le figer quelque part. Il faut qu'on accepte son hybridité.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Wax Paradox de Justine Sow est publié chez Bayard Graphique. Si vous êtes à Paris ou de passage dans les mois qui viennent, l'exposition sur le wax au Musée de l'Homme est à découvrir jusqu'en septembre prochain.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et avec Caroline Paré, aujourd'hui on parle de la prise en charge de l'addiction.
Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute, spécialisée en thérapie comportementale et cognitive au Centre Hospitalier Sainte-Anne, GHU Paris Psychiatrie. Pourquoi l'accompagnement de l'entourage d'une personne dépendante est-il primordial ?
Il est primordial parce qu'en réalité, il y a une intrication. C'est-à-dire que la consommation, c'est quelque chose qui est lié à l'émotion et à l'affect. C'est des raisons pour lesquelles on consomme sont souvent émotionnelles et affectives. Et évidemment, la famille, l'entourage, les proches, les amis font partie de notre environnement affectif et émotionnel et participent à dysréguler nos émotions, c'est-à-dire à certains moments nous apaiser, nous faire du bien, et à d'autres précipiter parfois des tensions, des inquiétudes, des crispations. Et donc, on est obligé d'une certaine manière d'intégrer la famille et l'entourage dans la prise en charge de l'addiction ou de la consommation afin d'espérer avoir un résultat optimal. Parce qu'évidemment, quand vous êtes sorti de votre environnement familial, affectif, vous pouvez arrêter la consommation et être dans une bulle, en fait, un peu protégée. Mais dès que vous réintégrez l'environnement familial, il faut composer avec votre environnement qui va précipiter des émotions et peut-être des dysrégulations aussi à ce niveau-là.
Vous conseillez à la famille de se renseigner, de s'informer sur la nature de l'addiction ?
Bien sûr, on conseille à la famille de se renseigner, de comprendre. Il y a des groupes d'entraide, de paroles réservées aux proches, à la famille, qui sont vraiment importants et intéressants. Mais je leur recommande aussi de s'extraire de cette prise en charge pour donner le maximum de chance à la personne qui souhaite arrêter sa consommation de pouvoir le faire.
Merci Anne-Victoire Rousselet. Aujourd'hui dans Priorité Santé, à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, on va parler des atteintes dermatologiques, maladies rares de la peau qui n'ont pas de traitement curatif et peuvent avoir un impact sévère sur la qualité de vie. C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure, Caroline Paré, 5h26 à Paris, 4h26 en temps universel. Dans quelques minutes sur RFI, le retour de l'actualité africaine. Nous, on fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute Fabregas, le métis noir, et Déplic Pomba avec le titre Mbembe. Inséparés, les inséparables. Voilà moi,
c'est petit, c'est quoi ça? Mon général John Tshibangu. Le président de l'Afrique Foot, Samuel est fils.
Bombé de Fabregas, le métis noir, et Déplique Pomba que vous découvrez sur la playlist musicale de RFI. Dans 30 secondes, l'actualité africaine.
Ce jeudi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Gerbrand.
Reportage en Italie à l'occasion de la COP16. La région des Marches au centre du pays a été pionnière dans la conservation de la biodiversité grâce à un réseau d'agriculteurs gardiens qui répertorie et protège des centaines d'espèces végétales et animales menacées d'extinction.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.